nous allons commencer. That's the last day. It will be, yeah. Michel. Michel. Bonjour. Malheureusement, le dernier jour, il semble que le réveil est difficile. Mais donc, on commence avec 25 minutes de retard. Nous avons avec nous aujourd'hui Patrick Fellstrom, qui n'a pas pu présenter l'autre fois parce qu'on a été trop en retard. Donc, il est venu aujourd'hui pour nous faire la présentation du SSAC, qui est la Security and Stability Advisory Committee. Donc, lui, il est le président et va nous faire son exposé. À toi, Patrick.
Thank you very much. So I will do this in English because once upon a time.
Je vais m'exprimer en anglais parce que j'ai appris le français, j'ai vécu un petit peu à Montréal, mais croyez-moi, c'était difficile. J'étais très confus à Montréal, j'étais dans la confusion la plus totale. Et je sais dire quelques mots en français, c'est à peu près tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la tête de la commission consultative stabilité et sécurité de l'ICANN. Et nous sommes une des commissions consultatives. Vous avez peut-être eu des informations à ce sujet pour les organisations de support et je ne vais pas donc entrer dans tous les détails que vous connaissez déjà bien, mais nous allons parler ce matin de la manière dont nous travaillons et de ce que nous avons déjà réalisé, et nous aurons le temps de poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Lorsque nous travaillons à des protocoles techniques, il y a des standards, c'est ce que nous faisons ici à l'ICANN. Nous avons une organisation de standards comme Task Force pour l'Internet ou l'IETF, W3C, le consortium du World Wide Web, d'autres consortiums, l'Union des internationales des télécommunications, qui ont tous développé des standards, des normes. Et que ces standards, ces normes fonctionnent ou pas, que ce soit stable ou pas, c'est une discussion un petit peu théorique, dirons-nous. Et ce que nous essayons d'effectuer ici aujourd'hui, c'est de voir les standards que nous utilisons dans le contexte de l'ICANN, et non seulement de voir si les standards fonctionnent, si on sélectionne les bons standards, mais voir également les problèmes opérationnels qui se posent. Et ce que nous essayons de faire, c'est de voir, avoir une perspective large sur la situation pour voir si nous allons dans la bonne voie, si nous développons des politiques valides et si les décisions que nous prenons peuvent présenter des risques pour la sécurité et la stabilité globale des divers systèmes que l'ICANN gère, n'est-ce pas? La commission sécurité et stabilité à environ 35 membres. Et je dis environ parce que, pour le moment, nous sommes dans une période où nous analysons et revoyons un petit peu un tiers de notre effectif, un tiers de nos membres. Il y a une rotation de certains et certains qui sont nommés à nouveau. Donc, il y a certains membres qui, pour le moment, sont des invités et formellement, nous, et je regarde Sébastien, qui seront acceptés officiellement à la réunion du conseil d'administration de demain. Donc, les membres sont nommés par une commission de l'effectif qui prend en compte les candidatures, qui les fait des entretiens avec ces candidats et voir s'ils sont de niveau, au niveau de nos standards, s'ils sont donc de haut niveau, au niveau de leurs connaissances et de leurs compétences et de leur savoir sur la sécurité des S en général, des SN en général. Et donc, nous vérifions bien que les candidats, donc, apporte des compétences supplémentaires pour nous assurer que tous les membres ensemble, tout notre groupe doit avoir toutes les connaissances nécessaires pour une évaluation forte et pour des capacités de rapport des questions techniques que nous traitons. Donc, si c'est le cas, les nouveaux membres, donc, passe devant la commission de l'effectif et le candidat est présenté à tout l'ESSAC et ESSAC accepte ce membre et d'être accepté. Donc, une fois qu'on est accepté, la demande est envoyée au conseil d'administration de l'ICANN et le conseil d'administration, le directoire de l'ICANN, accepte donc cette candidature, l'entérine, l'officialise. Donc, d'autres parties de l'ICANN, at large par exemple, peut présenter des membres. Cela donc implique le fait qu'il y a un système de liaison à la SAC, mais qui doit être accepté par tous les membres de la SAC et donc confirmé par le directoire de l'ICANN, comme je l'ai dit. Et la raison pour cela, c'est que nous avons un consensus que toutes les personnes qui participent au travail ESSAC doivent être totalement des membres de l'ESSAC. Et nous ne voulons pas avoir des membres de l'ESSAC qui ne voteraient pas, qui seraient à moitié des membres. Il faut qu'ils soient tous des membres à part entière. Parce que nous parlons de problèmes très, très, très sensibles, très souvent sensibles au niveau de la sécurité, peut-être pas aujourd'hui, mais pour l'avenir. Nous faisons des rapports que nous effectuons, basés parfois sur des rumeurs qui existent sur des cas potentiels d'incidents visant à la sécurité de l'Internet, qui pourraient avoir des fuites vers la presse. Nous avons besoin de gens de confiance, de gens de haut niveau. Nos conclusions pourraient être reprises et il pourrait y avoir de fausses informations qui circulent. C'est pour cela que ça doit rester confidentiel. Lorsque l'on parle d'une entreprise précise, lorsque l'on voit toutes ces rumeurs qui peuvent exister, qu'une compagnie, qu'une entreprise a fait quelque chose d'interdit ou de néfaste, eh bien, nous devons nous assurer d'avoir des personnes de confiance qui ne vont pas justement faire des fuites vers la presse qui pourraient accélérer les rumeurs et poser des problèmes de communication. Donc la participation à l'ESSAC est extrêmement restreinte et la confidentialité, les contrats de confidentialité sont extrêmement poussés, extrêmement pris au sérieux. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne veux pas avoir des débats, par exemple, sur un membre de l'ESSAC qui ne fait pas confiance à quelqu'un d'autre, à une liaison envers une autre entité. Il faut qu'on soit tous en confiance et qu'on soit tous au même niveau et qu'on soit tous en mesure de faire confiance aux autres membres du groupe. D'accord. Donc, repartons donc un petit peu dans notre transparent. Et ce que nous faisons dans la SAC, c'est écrire des rapports. Voilà ce que nous avons publié, ces rapports entre 5 et 8 par an. Nous avons publié les rapports SAC 047 à 051. Je vais en parler. Le premier commentaire de la SAC sur des problèmes en rapport avec, à cette époque, le problème du guide de candidature pour les nouveaux domaines. Le processus de transition, les problèmes de registre pour les GTDLD, pour les nouveaux noms de domaine, le guide qu'a publié l'ICANN, on a fait des commentaires là-dessus. Donc, les problèmes de sauvegarde, le problème de zone, tout ce qui avait été décrit à ce moment-là, c'était quelque chose qui, selon nous, devait être revu au niveau technique, parce que le modèle n'est pas tellement solide. Donc, le rapport explique, en fait, les étapes de transition de registre, et il s'agit là de l'étape la plus importante pour minimiser les temps de panne, ou les temps où on ne pourrait pas utiliser le système, période où le système ne fonctionnerait pas, la transition doit se faire sans heurts, en douceur. Donc ça, c'est un point très important, beaucoup plus important que d'avoir la capacité pour le registraire à mettre à jour ces noms de domaine. Donc, c'est un des commentaires que nous avions. Nous avons pensé que les questions d'authentification, d'authentification est extrêmement importante. Nous avons pris en compte les risques qui existaient. Tout ça, c'est des questions très techniques. On a pris en compte les risques, les capacités lors de la transition, les mises à jour des noms de domaine, les risques que cela impliquait et les méthodes, les mécanismes qui étaient absolument nécessaires pour ce faire, les risques qui existaient pour les registrants qui pouvaient éventuellement mettre à jour leurs archives, leurs contacts et ainsi de suite, leurs informations. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est absolument technique, mais les autres sont beaucoup plus simples, ce qui se passe dans le monde. Les autres rapports, par exemple, SAC 50, le blocage du DNS, avantage et inconvénient. Donc ça, c'est un rapport consultatif qui donne notre opinion sur le blocage du DNS. Nous allons passer donc au transparent suivant. Ça ne va pas rentrer dans les détails une nouvelle fois. Nous avons parlé également des nouvelles étapes du WHOIS. Après avoir terminé SAC 051, nous avons été voir le directoire. Et nous avons proposé au directoire, et vous allez voir ça là demain, je crois que Sébastien est au courant de cela, où il y aura demain des éléments de proposer au directoire. Le rapport WHOIS 51 avec les données internationales d'enregistrement. On va encore en parler ce matin. Il y a toute une équipe d'analyse du WHOIS qui va travailler. Les raisons pour lesquelles nous croyons à la SAC, nous pensons que les débats sont très complexes à l'ICANN. Et je crois que le rôle de notre groupe, justement, c'est d'apporter quelque chose. On a besoin d'une terminologie un petit peu plus précise et claire. Il faut savoir, par exemple, pour le WHOIS, les protocoles, qui est quoi, qui fait quoi, et il faut clairement dire, lorsque l'on veut internationaliser quelque chose, il y a des indications nécessaires, des autorisations, des systèmes d'autorisation sur lesquels on doit se bâtir. Ça devient extrêmement complexe d'avancer dans ces domaines. Par exemple, nous avons une task force en 1998, il y avait un protocole qui n'est plus approprié pour les opérations à ICANN que nous voudrions voir pour les services WHOIS. Donc le rapport est assez simple, mais d'un autre côté, la résolution du directoire est très complexe parce que nous demandons des actions de prise de la part de l'ICANN pour développer des taxonomies, par exemple. Donc, le point suivant, c'est que nous continuons le débat sur le blocage, sur les systèmes de répudiation de noms de domaine, de retrait de noms de domaine, répudier des noms de domaine. Souvent, il y a des listes noires qui permettent justement de bloquer le spam, les pourriels, et la communauté s'intéresse de plus en plus à ces listes noires pour beaucoup d'applications. Et ce que nous essayons de trouver, c'est si c'est exactement le cas que ces listes noires ou blanches ou quoi que ce soit génériques pour les noms de domaines génériques sont utiles pour si elles sont utiles pour les applications. Est-ce qu'il y a des inconvénients également à ces listes de couleurs noires ou blanches? Donc nous étudions également
les noms de domaines qui n'ont pas de points, de dots, comme les domaines de premier niveau. La raison pour laquelle nous regardons cela, c'est parce que nous voyons dans les processus de marketing, pour les nouveaux processus d'ETLD, comme certaines entités croient qu'ils veulent et seront capables d'utiliser des adresses e-mail, par exemple, info@exemple ou exemple est le domaine de premier niveau. On voit aussi des gens qui veulent avoir des pages web HTTP exemple qui serait un domaine de premier niveau. C'est quelque chose que dans le programme protocole DNS bien sûr serait possible à résoudre, mais d'un côté pratique cela ne marchera pas. C'est notre pensée préliminaire, notre sentiment préliminaire. On veut regarder ça avec caution parce que ça pourrait être le cas où spécifiquement ce serait un exemple d'une différence entre la théorie et la pratique. Et moi, j'ai toute ma vie en tant qu'ingénieur dit que en théorie il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique il y en a une. Et c'est là où on devra regarder de très près. Par exemple, si vous êtes sur un serveur et que vous tapez quelque chose qu'il n'y a pas de point, si vous faites ça dans le browser Chrome et vous faites une recherche Google, si vous tapez sur un Mac ou sur un Safari, avec Safari, ça va vous faire une recherche multicause sur le réseau domaine le local. Il y a donc des variances sur les ordinateurs. Il y a plein de choses qui se passent si vous n'avez pas de point. Dans le cas où vous n'aurez pas de point, donc le dot, le point, dans un nom de domaine, indique qu'il faudrait utiliser un DNS. C'est pour ça qu'il y a une différence entre, oui, vous pouvez regarder les choses à DNS qui n'ont pas de point, mais en pratique, ça ne marchera pas parce que la recherche n'atteindra pas le DNS. Comme j'ai dit, on y regardera et on reviendra là-dessus. Aussi, nous travaillons sur l'optimisation de nos propres clauses et procédures. Il faut qu'on trouve un mécanisme plus facile pour savoir quel est le rapport que vous préférez. Et on sait qu'il y a des boutons pour « oui, j'aime pas ». Nous ne voulons pas passer trop de temps quand on écrit 4 ou 5 rapports par année. On ne peut pas passer tout notre temps à écrire ces rapports et personne ne les lit. Donc on aimerait savoir le plus tôt possible si on fait du bon travail. Et j'ai aussi parlé du comité consultatif et des groupes avec lesquels on s'est rencontrés. On a eu une rencontre hier avec le bureau aussi pour parler de la sécurité sur l'Internet, donc, etc., etc. Donc, c'est ce que nous faisons en ce moment. Je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions pour... Oui. Je m'appelle Harvey. Bonjour. Je voulais savoir, après votre travail, après que vous ayez vos résultats, ce sont des recommandations que vous donnez ou... Oui, oh, ok. Après votre travail, les résultats sont des recommandations au bureau pour de l'implémentation technique? Parce que si je comprends bien, c'est que vous êtes un comité consultatif et vous dites que vous voulez avoir du suivi après votre travail de la part de la communauté. Si c'est quelque chose de technique, vous pensez que vous pourriez prendre les contributions de la communauté et c'est très technique. Quand on a fini nos rapports, oui, ils sont passer au bureau et il y a une résolution du bureau qui dira que le rapport a été accepté par ICANN. Oui, c'est correct, mais ça ne pas être dans le rapport, ça ne peut pas être forcément une recommandation sur laquelle le bureau doit agir. Quelques-uns des rapports sont des recommandations, par exemple des choses sur lesquelles ICANN devrait faire quelque chose ou ICANN fait une sur une autre partie de la communauté. Des fois, c'est juste des informations pour les registrants. Des fois, il s'agit d'informations pour les registraires et les registres, mais pas des recommandations pour ICANN, par exemple, pour le DNSO, pour tout ce qui est accord. Donc, ce n'est pas le cas que ces rapports ont pour résultat des recommandations explicites pour qu'il y ait des actions dans la communauté Internet par l'ICANN. Mais ça fait partie du travail quand on crée des rapports pour décider quelle est la cible du rapport, qui est la cible. Vous mettez votre doigt dessus. Ce qu'on a vu, on a beaucoup plus de contributions sur ces rapports qui indiquent qui sont les cibles. Et les rapports génériques qui parlent juste le ciel est bleu, le vent tourne de quel côté, personne ne les aime, ces rapports. Oui, Patrick Chao. Merci. Cheryl, je voudrais suivre avec Harvey et ce que Patrick a ensuite dit. Quand le ESSAC a identifié un rapport qui est pertinent à notre communauté, l'utilisateur le registrant at large, de n'importe quelle manière, dans l'ICANN ou même en externe, l'audience ciblée. Donc, je me demande si ESSAC et le personnel pourraient assister nos leaders au niveau régional et les ALS. Ce sont eux les interfaces qui reçoivent ce message, cette information à la fin. Donc, je pense qu'il y a une opportunité là pour socialiser qui nous manque, que nous n'avons pas. C'est une bonne question, oui. De l'autre côté, c'est une des raisons pourquoi ALAC est un des très rares groupes que nous avons, avec lesquels nous avons une liaison. Nous attendons beaucoup sur cette. Nous ne parlons pas forcément de la part de ALAC, mais si on avait une personne qui serait la liaison, qui parlerait de ESSAC ou ESSAC membre, avec l'expérience que cette personne pourrait ramener des discussions avec ALAC. Oui, je pense que je suis complètement d'accord avec vous. Cette communication croisée serait quelque chose qui pourrait être amélioré et nous essayons de faire le mieux possible pour améliorer cela. Lynn Traudé.
Tu as été posé par Cheryl. Merci. Ma deuxième question, c'est par rapport à votre relation avec l'IETF. Est-ce que vous avez des relations avec l'IETF, étant donné que vous travaillez sur des aspects techniques? Merci.
Excuse me, can you explain what IDF is?
Vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par IDF? Nous n'avons pas de connexion avec IETF, mais la moitié des membres ESSAC sont participants dans ce groupe. Je pense que nous avons deux sur tous les groupes. De tous les groupes de travail qui sont membres de ESSAC, je pense que un tiers des directeurs DNS dans l'AETF qui font partie de ESSAC. Nous avons donc de bonnes relations avec des individus. Nous participons pas dans les deux organisations, mais le comité d'effectifs qui font la révision des applications recommanderait absolument ESSAC pour nous amener de nouveaux membres à ESSAC si ceux que nous avions partiraient. C'est donc très important pour nous d'être en bonne relation avec AETF. ESSAC regarde ce que la communauté ACAN fait en référence au DNS quand il s'agit des opérations dans le processus de développement que nous avons à ACAN. Des fois, nous voyons qu'il y a des changements techniques dont nous avons besoin, qui pourraient améliorer notre travail. Par exemple, pour les protocoles, du point de vue ESSAC, pas ICANN qui doit faire des changements de protocoles techniques. Au lieu de ça, nous devrions demander à IATF de faire ces changements. Si c'est le cas, si nous avons bonne participation avec ESSAC et de IATF, des mêmes individus, des mêmes gens, c'est là où nous allons nous engager notre travail pour faire des mises à jour de protocoles. Avec toutes les recherches que les résultats que nous avons dans tous ces rapports, j'essaye d'assurer que le travail technique en référence du protocole est fait d'où qu'il vienne, que les guides, les manuels de protocole, quelque chose que nous pouvons suivre. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Patrick Wallstrom, pour venir et nous expliquer votre travail. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Je suis là jusqu'à demain soir. Si quelqu'un a besoin de me parler, merci de m'avoir invité. Notre prochain sujet sera la présentation du groupe des politiques, de l'exercice des politiques. J'aurai 5 groupes. Est-ce que je peux appeler le groupe 1 ou allez-vous? Une question pour qui? Une question à distance, remote. Patrick est parti. Ah, je n'ai pas vu. OK. Il pose la question à Patrick. Alors, ça va. Nous allons donc continuer. Est-ce que donc le groupe 1 peut présenter son travail? Vous êtes prêts? Groupe 1. Sophia.
Mais il faut que j'ai les différents documents devant moi. Je peux. En fait, je vais essayer d'expliquer la démarche qu'on a entreprise pour ce travail de recherche. Mais d'ores et déjà, on peut dire que on n'a pas un document à livrer pour l'instant. Donc, si on a la possibilité de le transmettre d'ici quelques jours et on peut le discuter, voilà, on a essayé de. Donc, en ce qui concerne le recueil d'informations, on a essayé de faire d'une petite recherche chacun de notre côté. On a eu à peu près une conduite maintenant à propos de la démarche, de la proposition qu'on va faire, et on la présentera d'ici quelques temps.
Fatimata, merci Sophia. Est-ce que nous pouvons avoir au moins des grandes idées sur ce que vous avez retenu, sur ce que vous avez fait, pas seulement la méthodologie, mais dites-nous au moins si vous avez trouvé quelque chose.
Voilà, on a vu qu'au niveau de l'accord, quand il a été publié en 2001, en 2009 il a eu sa révision. Il y a eu une version 2009. Après cette version, la version 2009, il y a eu des discussions à propos de des dispositions juridiques se rapportant à cet accord pour ceux qui entravent certaines dispositions de cet accord-là. Donc, et quelles sont les... Oui. pardon.
Fatimata, excusez-moi, est-ce que vous pouvez au moins dire votre thème? C'est-à-dire, vous dites, commencez par cet accord, mais bon, rappelez s'il vous plaît votre thème. Merci.
Alors, le thème, la question, c'était... juste une petite seconde pour lire exactement la question intégralement. How would you consider the...
Comment considérez-vous les provisions de le EFAA?
Donc, on devrait voir quelles sont les dispositions prises par rapport à tout ce qui est entravement, à tout ce qui est répression par rapport à cet accord-là. C'est bien ça? Oui. Donc, je disais... alors, on a vu à peu près quelle est la démarche généralement qui est entreprise par ICANN quand il y a des améliorations ou des recherches à propos de certaines améliorations, bien sûr, de cet accord, de certaines clauses de cet accord. Et on va essayer dans ce sens, bon, on a vu la démarche ICANN et on va essayer de faire une proposition peut-être à notre manière. Je ne sais pas si on est sur la bonne voie ou pas.
Mon nom c'est Yaovi, c'est juste pour ajouter à ce qu'elle a dit. Et d'abord pour dire que cet exercice, nous avons trouvé ça intéressant parce qu'il nous a permis de commencer un travail. Et l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement. C'est un document un peu lourd et nous avons trouvé l'exercice très bien. Dans le même temps, ça nous a forcé à aller voir beaucoup de documents. Donc c'est là où nous sommes en train de demander que ce serait bien de ne pas nous demander de conclure aujourd'hui et de nous donner quelques jours, comme ça nous allons approfondir. Et aussi nous souhaiterions rentrer en contact avec celle qui a fait la présentation pour avoir plus d'éclaircissement sur comment orienter la réponse. Donc, c'est un peu le travail du groupe. Merci.
Fatimata, merci Yaovi. Je pense que c'était le but recherché, mais je voudrais savoir qui étaient les membres du groupe.
Alors, les membres du groupe, c'est Michel, Yaovi, Haja et moi-même. Et Étienne. Étienne, je sais pas comment il s'appelle.
Fatimata, merci Sophia. Michel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ils ont dit l'essentiel.
Ils ont dit l'essentiel.
Est-ce qu'il y a une question pour le groupe numéro 1? Ou bien un commentaire? Oui, Adja?
Je voulais ajouter que nous avons compris aussi qu'il faut qu'on regarde l'agrément avec la perspective des nouveaux GTLD. Oui.
Très bien. Je pense qu'à partir de... c'est Fatimata. Je pense qu'à partir de vos recherches et du petit document que vous allez faire, que vous allez partager avec nous, nous en saurons tous un peu plus, beaucoup plus, par rapport à cette thématique. Et c'était le but recherché. Peut-être que, bon, on va pas dire, on va vous imposer une date, mais ce serait bien de savoir dans combien de temps on pourrait en disposer. Merci.
Mais, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que, jusqu'à nos jours, les discussions continuent sur le sujet entre le GAC et la structure, parce qu'on a vu que jusqu'à mardi, ils étaient encore en débat. Donc il y a des possibilités que les réactions soient évolutives.
Mais pour ajouter, on s'est dit que d'ici mercredi prochain, au niveau du groupe, nous aurons fini nos discussions. Et en fin de semaine, on s'est dit, d'ici fin de semaine, le groupe a essayé d'envoyer une réponse.
Fatimata, merci beaucoup Yaovi. C'est le type de réponse que je cherchais. Merci. Nous allons donc passer, s'il n'y a pas d'autres commentaires pour le groupe numéro 1, nous allons passer au groupe numéro 2.
Très bien. Mais est-ce qu'il est possible d'afficher à l'écran? J'ai posé sur Adobe Connect. Je ne sais pas si on peut, je peux passer mon écran directement. Ou alors, si je peux utiliser ça, comment est-ce qu'on peut... This one? Non, mais si il, sous, il peut cliquer sur la, le lien que j'ai donné sur Adobe Connect. I give the link to the Adobe Connect. Non, non, mais c'est tout bon.
Fatimata, en attendant que les choses s'arrangent, je voudrais dire que certainement il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle à 7h, parce qu'hier on avait dit en nous quittant qu'on commencerait à 7h30. Et c'est pour cela que moi je suis arrivée à 7h30 pile dans la salle. Donc c'est ça qui était convenu dans le groupe. C'est pour cela que, bon, ben, on a un programme, mais le programme peut changer. Si on a décidé de changer le programme, bon, il faut qu'on respecte ce qu'on a décidé. Si on ne l'a pas décidé, bon, on le dit. Mais on ne peut pas dire à tout le monde, donc demain 7h30, et le lendemain, on commence à 7h avec la moitié de la salle. Voilà. Bon. Didier?
Merci beaucoup, Fatimata. Donc, nous, je parle pour le nom du groupe 2. Les membres du groupe sont Laxidi Monder, Lagdi Monder de Isoc Tunisie, Robertine Tankeou de Anaïs, Alioune Traoré, Isoc Mali et Didier Cassolet de Isoc DRC. La question nous posée était la suivante. Have you ever contacted Ayana.org with a question
about... Est-ce que vous avez déjà contacté Ayana avec une question de l'IPv6? Oui ou non?
La réponse est non. Tout simplement parce que regardez un tout petit peu le tableau à l'écran. Les adresses sont gérées par région, par ce qu'on appelle les Regional Internet Registry. Dans notre cas, c'est l'Afrinic qui gère. Si on peut descendre un tout petit peu au bas de la page, on va nous montrer la relation qui est entre Ayana et ses registres. Can you scroll down, please, Matt? Yes, go ahead. Can you scroll down? Yes, this one. Internet Resource Allocation. Stop. Alors, ici, on voit, c'est Ayana, les registries traitent avec Ayana pour l'allocation. C'est Ayana qui alloue les adresses aux registres, et les registres allouent les adresses aux utilisateurs finaux ou aux LIR. Et dans notre cas, pour l'Afrique, Afrinic fait une petite campagne sur les adresses. Et ça fait 2 ans qu'il alloue les adresses IPv6 sans frais pour ceux qui ont des adresses IPv4. Donc, on n'a pas beaucoup de problèmes à ce sujet. Et Afrinic conduit des ateliers de formation depuis 3 ans en Afrique pour encourager les gens à utiliser. Maintenant, l'autre question sur le protocole. Le protocole est discuté au niveau de AITF. Donc, si nous avons des questions sur le protocole, on allait les traiter avec AITF, pas avec Ayana. Voici donc, en bref, les raisons pour lesquelles nous n'avons pas... les raisons pour lesquelles nous n'avons pas de raisons de traiter avec Ayana pour la question des IPv6. Il y a aussi un PDP, un Policy Development Process, au sein des Afrinic sur les questions d'allocation. Et donc, si nous voulons traiter des policies à ce sujet des IPv6, nous allons les traiter dans la procédure PDP de Afrinic qui est ouverte. Je vous remercie.
Fatimata, merci Didier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit applaudir? Merci beaucoup. Moi, ma question à votre place serait de demander à la personne qui a posé la question pourquoi nous, on devrait nous adresser à Ayana, parce que cette personne-là sait que nous avons les Regional Registries.
Je pense que pendant nos discussions, Mondaire a relevé un point important. Je ne sais pas s'il veut en parler lui-même ou si j'en parle. Parce que ces questions n'ont pas été discutées. Nous ne savons pas comment ces questions ont été préparées. Si on les avait discutées, peut-être qu'on allait éliminer certaines des questions.
Merci encore Didier, c'est Fatimata. En fait, nous avions demandé à chaque présentateur de préparer une question. C'est comme ça qu'on avait... comme je viens de dire, nous supposons que le présentateur connaissait déjà la structure, qu'au niveau de chaque région, il y a des registres. C'est pour cela que j'ai posé cette question-là.
Alors, c'est qui le présentateur sur ce sujet de cette question?
Est-ce qu'il y a des questions pour... Bonjour, c'est encore Fatimata. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour Didier? Oui, Sophia?
Ce n'est pas un commentaire pour Didier, mais c'est en fait une demande. Est-ce que les encadreurs, si je peux dire entre guillemets, ceux qui ont proposé le sujet n'auront pas dû être présents aujourd'hui pour nous indiquer si on est sur la bonne voie ou pas?
Fatimata, Sophia, je pense que c'est un excellent point. Et peut-être que Heidi ou Gisela pourraient nous dire si... mais je pense que leur calendrier ne leur permettait pas d'être avec nous davantage et que les questions pourraient se diriger directement vers ces personnes-là, comme on l'avait dit depuis le début. C'est certainement une question de calendrier qui les empêche d'être là ce matin avec nous. Oui, Didier.
Mais pour des questions pédagogiques, ils auraient dû laisser les réponses aux questions. Didier Cassolet, je disais que pour les questions pédagogiques, ceux qui ont laissé les questions auraient dû laisser des réponses pour qu'on essaie de voir si les réponses données correspondent à leur attente.
Fatimata,
ça dépend s'ils ont la réponse ou pas, ceux qui ont posé la question.
Exactement. Peut-être qu'ils veulent prendre le temps. Mais ce qu'on peut demander, par contre, c'est-à-dire tous les résultats que vous aurez collectés, on peut leur demander de les regarder et de nous faire un feedback après. D'accord? Je pense que c'est la meilleure solution. Et puis, comme on est à court de temps un peu, si c'était encore les débats, ça allait continuer encore pour une semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Didier? Groupe numéro 2. Non? Merci Didier. On passe au groupe numéro 3. Oui, le groupe numéro 3.
Le groupe numéro 3 est composé de Charles Gay, Arnold Moulenda, Alioune Diop et Tchombe Baudouin. La question est la suivante. Elle est d'ailleurs en deux. Je la pose en anglais et ensuite en français. If your group...
Si on demandait à votre groupe de développer des principes et des règles pour étendre le DNS, qu'est-ce que vous identifieriez comme étant les trois principales priorités? Comment pourriez-vous identifier les étapes à prendre pour réduire les risques inhérents à ces problèmes?
Arrêter des règles et des principes pour l'extension du système des noms de domaine, qu'allez-vous identifier comme les trois premières priorités? Comment allez-vous identifier les plus grands risques et quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour réduire les risques de ce problème? Alors, nous allons laisser à Charles qui va donner les réponses à ces questions-là sur lesquelles nous avons travaillé.
Well,
Eh bien, c'est des points les plus importants en ce qui concerne l'Internet, parce que le DNS, c'est le cœur de l'Internet, c'est ce qui permet à l'Internet de fonctionner. Et il me semble que l'organisation continue à connaître une forte croissance, mais ça devient de plus en plus complexe, il faut dire, et de bien gérer le DNS. Donc, en tant que groupe, nous avons décidé de voir ce que l'on pouvait faire pour répondre aux défis qui se posent, et nous allons compiler notre rapport et d'une manière ordonnée, parce qu'on n'a pas encore conclu. On a beaucoup avancé, mais certains membres ont décidé de trouver, d'apporter des résultats nouveaux, et on doit donc compiler, faire la synthèse de tout cela, et on doit s'assurer que, moi je vais m'assurer de tout compiler et de l'envoyer au directoire. Voilà, merci. Fatimata, merci Charles. Je vais poser la même question à Sophia. Est-ce qu'on peut avoir les idées... C'était la question que j'avais posée à Sophia, je vais vous poser la même question. Est-ce qu'on peut avoir les résultats principaux, les points saillants de votre recherche? Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le DNS, et c'est absolument essentiel pour la mission de l'Internet, et il y a des défis, des problèmes qui existent. Donc, par exemple, pour le DNS... S'il ne fonctionne pas bien, eh bien, vous perdez votre capacité à communiquer avec le monde externe et les clients perdent leur capacité de vous contacter. C'est un des aspects les plus importants du DNS que nous avons noté. Et le gérer, ce DNS... est également essentiel. Ça va donc représenter un véritable défi pour toute organisation. Et pour qu'une entreprise maintienne son propre DNS, ça serait très, très, très difficile. Ça serait très cher, ça serait très complexe, il faut des super ingénieurs informatiques. Moi, je veux que ça soit bien entretenu, faut que ça soit professionnel, faut que ça soit fait par des spécialistes des technologies de l'information. Et ce que vous voyez, c'est que ça devient quelque chose qui fait sens au niveau du coût. Il y a très peu d'associations qui sont capables financièrement de gérer un DNS, le DNS. La gestion du DNS prend du temps également. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte et on voit les mises à jour de sécurité du DNS qui sont très importantes, qui sont essentielles, et on a pris tout cela en compte. Mais si vous assurez l'entretien de votre DNS et l'administration vous aide à sortir, à communiquer, donc à sortir du système, à communiquer avec les autres et de communiquer dans les deux sens. Mais il faut tout mettre en perspective et c'est impossible de communiquer si tous ces éléments ne sont pas présents. Donc voilà ce que l'on voit pour le DNS et on essaye de développer cela dans notre rapport.
Fatimata, thank you, Charles.
Merci, Charles. Je suppose que vous allez aller vers une écriture de recommandation à propos du DNS. Tijani, vous avez la question avait à voir avec l'extension DNS. Comme vous savez, avec les nouveaux GTLD, les DNS seront étendus. il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que ICANN acceptait tellement de nouveaux GTLD, car les gens ont dit que cela causerait beaucoup de problèmes au DNS. Donc la question était celle-ci. Les gens, quelles sont les menaces à laquelle on fait face vis-à-vis des extensions DNS, avec les extensions de DNS? Une des trois défis majeurs que nous avons avec cela, c'est que c'est l'administration et la sécurité du DNS. Si ces choses sont mises dans leur dans perspective, il n'y aura donc pas de problème dans l'extension des DNS. Stratégiquement, nous pouvons regarder à l'administration et l'aspect d'administration et de sécurité du DNS. Ce sont les domaines sur lesquels nous avons mis notre concentration et c'est ce que nous allons élaborer plus dans notre présentation. Merci, Charles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Charles, groupe numéro 3? Oui.
Ce n'est pas une question, c'est un ajout, un appui à Charles. C'est comme Charles vient de le dire, c'est une question très sensible, c'est une grande question. Nous ne devons pas y aller très rapidement pour aboutir à des mauvaises réponses. Je disais, nous, dans notre politique d'élaboration de ces petits documents que nous allons produire après, nous nous sommes dit, le DNS, c'est vrai, l'expansion, on ne doit pas refuser ça, on doit accepter, mais nous nous réfugions derrière le DNS sec, la sécurité de ces DNS, parce que aujourd'hui, on ne peut pas limiter. L'Afrique est en croissance. Il y aura sûrement d'autres. Il y aura beaucoup de noms de domaines. Mais il faut les sécuriser. Parce que sans sécurité, je pense que l'ICANN aura aussi un grand travail à faire derrière le monitoring. Parce que il y a des noms de domaines qui apparaissent pour des minutes et puis qui disparaissent. Il y a beaucoup de problèmes avec les banques aussi. Il y a beaucoup de problèmes avec la monétique aussi. Alors, c'est une attention particulière que ICANN doit faire derrière tous ces domaines. Et malheureusement, nous sommes entre nous ici, c'est nous qui travaillons dessus. Les utilisateurs, ils ne connaissent rien de tout ce que nous faisons. Et ils vont, je vais donner un exemple simple. Il y a des sites qui existent pour des minutes. Vous avez quelqu'un qui prend la copie de Yahoo, tel que Yahoo se présente il y a deux minutes, il crée un site à deux pages, vous mettez votre login, votre mot de passe, et après le site disparaît. Et ce monsieur-là, dans deux minutes, sous le monde entier, il a gagné combien? Et il va commencer à chercher derrière cela. Et vos banques non protégées, ça va être une catastrophe. Donc je pense que l'ICANN ne doit pas se limiter parce que le monde évolue aussi. Et l'Afrique, c'est encore. Nous avons vu le map, comme Didier nous l'a montré, et il y a beaucoup de travail à faire. C'était ça, le petit commentaire.
Fatimata, merci beaucoup. Donc, on applaudit le groupe numéro 3. Et nous attendrons, parce que Charles a promis de nous donner le document avant de quitter Dakar, c'est ça? Donc, nous restons à votre écoute. Maintenant, sans plus tarder, nous passons au groupe numéro 4. Le groupe numéro 4.
Yeah, hello. We're just waiting for the presentation to be up. I think we can start at it until then. Our case study.
Notre cas d'étude était IDN. Comme vous savez, il y a six études qui font dans notre équipe qui ont fait un bon travail avec six langues différentes, Pour notre équipe, nous avons choisi un des cas d'étude. C'était en arabe parce que moi, je connais l'arabe, donc je peux discuter un peu mieux. Et ça a posé des problèmes pour les autres membres de l'équipe, mais bon, ils se sont débrouillés, ils ont fait du bon travail quand même dans ce projet et dans cette discussion, comme la prochaine transparence. C'est juste une introduction des variances et de ce que ça veut dire. Désolée, mais l'arabe est là, il n'est pas vraiment apparu très bien dans cette transparence. C'est les différences d'écriture. Il y a des choses qui pourraient être similaires ou identiques en forme dans le domaine. Cet exemple n'est pas bien apparu, c'est pas correct. Comme on l'avait en Arabie Saoudite. Je suis désolée, mais c'est du langage que je ne comprends pas. Ce sont des lettres en arabe qui ont l'air d'être similaires, mais qui ne sont pas identiques. C'est cette façon, quand on utilise ces lettres, pas les autres lettres. C'est juste pour vous montrer que les variances sont entre les deux mots. Vous avez donc des variances dans les domaines. C'est un exemple. Dans notre cas d'étude, nous avons négocié deux chose très importante, que ce que les utilisateurs attendent quand ils utilisent les DNS, qu'est-ce qui les impacte. L'autre chose, la stabilité et la sécurité de l'Internet. On a commencé par la prochaine transparence, s'il vous plaît. Alors voilà, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup d'attentes de la part des utilisateurs. Normalement, dans les DNS ou ce qu'ils attendent, ils attendent que ce soit facile à utiliser. C'est très important pour l'utilisateur de ne pas être compliqué. Nous nous attendons pas à ce que l'utilisateur utilise des clés tout à fait différentes pour faire les mêmes lettres. C'est ce qui se passe. Par exemple, il aura besoin de utiliser Shift et une lettre spéciale qui n'est pas forcément là. Donc, ça va être un gros problème pour les IDN dans l'avenir. Je pense que même les thèmes discutés, mais pas avec une vue complète, pense que c'est important pour eux, pour ces utilisateurs, d'utiliser ces lettres qui sont importantes. C'est important d'essayer d'éviter d'utiliser ces lettres pour que ce soit plus facile pour l'utilisateur, ne pas avoir à utiliser toutes ces méthodes de faire des lettres pour les utilisateurs pour que ça rende les choses plus faciles. On s'attend pas à ce que vous connaissiez comment on épelle exactement tout. Tout le monde pense que les utilisateurs doivent savoir comment épeler tous les mots, mais dans certaines langues, comme en arabe, il y a des mots, beaucoup d'utilisateurs tapent. Avec, il y a beaucoup de différentes façons d'écrire un mot. On peut utiliser Hamek, Hamza, c'est le même mot, mais c'est pas un gros problème en arabe. Donc, si l'utilisateur veut atteindre un domaine, ce qu'il s'attend à faire, c'est que s'il le tape de n'importe quelle manière, il va atteindre le domaine. Donc, l'utilisateur s'attend à ne pas connaître la façon dont ça s'appelle exactement. Donc, voilà donc toutes les variances, les tables de variances. La prochaine transparence. Aussi, que ce soit facile à lire, les noms de domaines faciles à lire, c'est très important. Car en arabe, c'est pas comme les autres langues. Il y a d'autres langues comme l'arabe, mais bon, en arabe, les lettres sont connectées ensemble d'une façon que si vous ne les séparez, vous ne séparez pas les mots par quelque chose, vous n'allez pas vraiment savoir ce que ça veut dire. C'est difficile, c'est pas comme en anglais, où toutes les lettres sont séparées en anglais. Ce que nous pensons ici, c'est que les utilisateurs s'attendent à que des mots soient exprimés, que ce soit facile d'identifier les mots dans les domaines. Dans ce cas-là, il y a un gros argument en ce qui s'agit d'utiliser les codes. Même, je pense que 99% du langage arabe. Dans ce cas de d'étude, nous avons à utiliser ces codes, utiliser ces lettres. Il faut que ce soit tout facile à utiliser. Et si ce ne l'est pas, ce sera un problème pour eux. Même si le nom de domaine est facile à lire, et si ça peut être identifié correctement, ce sera un problème. Prochaine transparence. Il m'en manque une. Alors, un des cas très importants ici, surtout en arabe et certains langages, il y a un script, un texte. Un texte arabe, pas une langue arabe. C'est aussi une grosse différence. Pour d'autres, il y a d'autres langages qui utilisent les scripts ou les textes arabes. Bon, cela rend beaucoup de caractères ou de codes pour les utilisateurs arabes. Alors, il parle des différents morceaux de texte, morceaux de lettres en arabe. Ce que les utilisateurs s'attendent à faire, c'est d'utiliser des chaînes de lettres. Quelques lettres sont identifiées en serti, en langue serti, ou alors en perse, etc. On revient en arrière, s'il vous plaît. Merci. Alors, le clavier utile. Un clavier qui soit utile. Le problème que nous avons avec la langue arabe, surtout, c'est que le clavier qui sont disponibles avec les ordinateurs, faut trouver tous les caractères, tous les chiffres, tous les codes qu'il a besoin d'attendre. Et c'est pas toujours le cas avec les claviers. Surtout avec certains codes ou certaines lettres. Il devrait y avoir dans le futur des claviers qui aient d'autres fonctions, qui n'aient pas... Ça doit être résolu, ce problème, dans le futur. Prochaine transparence. Aussi... Dans certaines langues, encore une fois, le plus précisément en arabe, quelquefois, et à ce moment, nous avons discuté ça, ça a été discuté, mais il faut en discuter plus. L'arabe, pas de droite à gauche. Quelquefois, il faut lire on doit taper pour de gauche à droite. Par exemple, si on veut taper d'autres langues ou des chiffres, autre que l'arabe, bien sûr, si on le peut, c'est aussi doit être discuté aussi, car pour que les utilisateurs puissent avoir la vie plus facile, cela fait 6 attentes pour nous qui nous pensons que certaines d'entre elles ont déjà été discutées, mais nous pensons que ce sont les choses principales, les éléments les attentes principales des utilisateurs. Nous allons maintenant à comment nous allons maintenir la sécurité et la stabilité sur la prochaine transparence. pour maintenir ceci sur l'intérêt, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être considérés avant d'adopter les IDN. Avant, on est quand et avant l'adoption de l'IDN, nous avons besoin d'avoir d'outils variés qui ne sont pas disponibles aujourd'hui pour les IPP, par exemple, pour beaucoup de choses qui doivent être élaborées. Et aussi, je voudrais mentionner ou souligner que nous le discutons plus. Il y a des variantes, différences. Il faut donc discuter ce cas d'étude et toutes les choses qui vont affecter la sécurité et l'Internet. Il y a donc des variantes qui sont en... je suis désolée, mais... si les choses n'ont pas fait correctement.
Donc, il faut prendre en compte tous les IDN, il faut les mettre à jour. Et également pour la sécurité, et on va passer à la diapositive suivante, pour parler de la sécurité. Oui, la prochaine transparent, s'il vous plaît, oui. Donc, par exemple, le SSL s'est connecté au domaine et cela va avoir un impact très sérieux parce que un domaine il peut y avoir 6 ou 7 domaines derrière pour atteindre ce domaine, si vous voulez. Si vous utilisez donc les outils de gestion variantes, ces systèmes variantes, il y a beaucoup de certificats SSL qui utilisent plusieurs domaines pour arriver à un seul domaine. Donc, on passe au transparent suivant. Donc, c'est à peu près, c'est les membres du groupe. Le nom des grands membres du groupe, j'aimerais remercier tout le monde. Et merci beaucoup. J'espère pas avoir pris trop de temps.
Merci, Tariq, pour cette présentation. Je remercie tout le groupe également. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste que Tariq nous rappelle le thème de son groupe, la question qui a été posée. The question.
Il y avait deux questions importantes en fait. Quelle est l'attente de l'utilisateur? Je sais qu'on en a parlé dans 6 différents points. Les attentes sont très importantes, les attentes de l'utilisateur. Et l'autre point, c'était comment maintenir la sécurité et la stabilité de l'Internet.
Peters?
No, I just wanted to add that.
Je voulais simplement. Vous avez la liste du groupe, n'est-elle pas tout à fait complète, je ne sais pas.
Merci, Peter. C'est vrai que nous avions remarqué cela, mais le dernier slide présente les membres du groupe listés actuellement à l'écran. Oui, donc merci. Excellent travail, je suppose. Est-ce que vous avez des questions, des compléments, des amendements? Oui.
Didier Cassolet. Je voulais commenter un tout petit peu sur la faible mobilisation de certaines régions sur la question des IDN. Il y a certaines régions qui ne participent pas activement sur les IDN, certaines régions d'Afrique. On peut croire que c'est par paresse ou sans mauvaise volonté, mais la raison est simple, parce que ces régions ne sont pas affectées par les IDN. Ça veut dire, le Kenya, la Tanzanie, le Congo, etc., nos langues n'ont pas besoin de IDN du tout. Ils n'ont même pas les caractères français. Donc les caractères anglais suffisent. C'est ce qui fait que ces différentes régions ne participent pas activement à ces questions d'IDN. Ce n'est pas que ça vote, mais c'est parce qu'ils n'ont pas un besoin clair tout de suite. C'est pour ça que ces régions ne participent pas.
Fatimata, merci Didier pour ce commentaire. C'est vrai. Quand nous utilisons les caractères latins, on n'utilise pas, on n'est pas tellement intéressé par les IDN. Et c'est ce qui explique donc le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'Africains au niveau des groupes. Mais heureusement que nous avons les pays arabes, de langue arabe, qui participent, notamment Mohamed et les autres. Baudouin?
Justement, c'est à ce niveau-là va commencer à se poser des préoccupations. Parce que quand nous allons faire les extensions avec nos langues bantoues, qui ont parfois des caractères qui ne sont pas d'ailleurs qui ne collent pas tellement au caractère latin, les problèmes vont se poser à ce moment-là. Et c'est là où moi la préoccupation demeure. Hein, et je crois que même en développant, quand ils ont parlé des variantes, etc., la question est encore là. Je crois que ce côté-là doit être un peu beaucoup plus clarifié. C'est pour cela que je voulais revenir à leur question concernant les variantes dans les langues africaines.
Fatimata, je n'ai pas compris la dernière phrase. Je voulais revenir à la question concernant les variantes. C'est une question que tu veux poser ou...
Demander une clarification sur les différentes variantes qu'ils ont. Mais là, je faisais en rapport avec les langues africaines, comme les langues bantoues, semi-bantoues, amitiques, nilotiques.
C'est quoi ces langues? Hein? C'est le swahili ou le lingala ou le kikongo?
On peut prendre. Il y a l'alour, il y a le kikongo, il y a les chiluba, il y a tout ça, toutes ces langues-là qu'on peut prendre. Hein?
Non, le chiluba, il n'y a pas d'accent.
Ça ne fait rien. Ce sont des langues africaines, mais qui vont avoir des complications après quand on propose ces préoccupations-là.
Fatimata, merci. On va éviter les dialogues. Mais est-ce que ces langues ne sont pas écrites avec des caractères latins?
Pas nécessairement.
C'est écrit avec quel type de caractère?
Actuellement, c'est ça, on utilise là, mais je crois qu'il y a parfois des diphtongues, il y a des choses comme ça, là, il y a des slangs qui sont parfois plusieurs composés en plus. Donc, c'est ça là où je dis que ça va poser problème, parce que c'est pas toutes les lettres qui sont écrites comme dans l'alphabet latin, quoi. Pas nécessairement.
Merci Baudouin, c'est Fatimata. Donc, peut-être que vous devriez rejoindre le groupe des IDN, les Working Group, et participer pour que, justement, vos préoccupations soient prises en compte. Merci. Je voudrais passer la parole à Yaovi, ensuite Tijani et Aziz, après.
Okay. Merci, c'est Yaovi. Je voudrais aborder dans le sens de Baudouin, pour dire un peu que nous avons du travail à faire. Parce que nous ne savons pas réellement, moi je ne suis pas spécialiste de langue, donc, nous ne savons pas réellement beaucoup de choses, certains d'entre nous, par rapport à nos langues nationales. Donc, je crois, la proposition que moi je voudrais faire, c'est que quand nous retournons dans nos pays, que nous prenons nos ALS, nous prenons contact avec nos ministères ou nos structures en charge de nos langues nationales, c'est très important. Aujourd'hui, nous communiquons, par exemple, en français ou bien en anglais. En dehors de l'aspect internationalisation, nous devons penser aujourd'hui, peut-être que dans 50 ans, notre communauté aussi soit en mesure de travailler dans les propres langues. Donc, ma recommandation, c'est que même s'ils ne sont pas spécialistes, c'est important que nous faisons ce travail, nous rentrons en contact avec les structures qui sont en charge de nos langues dès que nous rentrons au pays pour qu'ils s'intéressent au sujet et puis aussi pour avoir un résultat dans quelques années. C'est très important parce que des fois, nous pensons que, bon, on n'a rien à faire et les autres avancent. Merci.
Merci, Fatimata. C'est juste une information que je donne. Il y a 6 groupes qui traitent 6 langues. Les 6 langues, il y a l'arabe, il y a le chinois, il y a le russe, je crois. Enfin, il y a 6 langues, uniquement 6 langues. Et les langues africaines ne sont pas incluses. Donc, s'il y a un effort à faire, il faut le faire maintenant. Il faut, du moins, je pense qu'il faut prendre contact avec ce groupe de travail pour voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Fatimata, merci. Tijani, la parole est à Aziz. Ensuite, c'est Alun. Non, maintenant c'est Aziz. Après, c'est Alun.
Voilà, ce que je viens de dire, Tijani, c'est à peu près ce que je voulais dire. pour préciser effectivement qu'il y a une liste que l'ICANN a publiée sur les langues qui, officielles qui vont être introduites. Il ne faut pas croire, parce que quand on regarde n'importe quel pays africain, et particulièrement des pays comme l'Inde, où il y a une population très forte, on ne pourra pas utiliser toutes les langues qui existent dans tous les pays. Donc il y a, je crois, 11, si je ne me trompe pas, la dernière fois où j'ai consulté ça, il y a 11 langues pour l'instant qui sont officielles, qui peuvent être introduites.
Merci. Alun.
Oui, Max, pouvez-vous afficher ce que j'ai? Voilà, c'est pour information, cette langue qu'on appelle un ko, en fait c'est une écriture ko, elle est capable d'écrire pratiquement toutes les langues du monde, que ce soit l'arabe. Je sais maintenant par exemple que le Coran est écrit à la langue ko, et je pense que c'est peut-être une piste qu'il faudra essayer d'élaborer, parce qu'elle est capable de prendre toutes les langues africaines en charge, y compris même les langues européennes. C'est l'information que je voulais donner. Vous pouvez aller sur le lien, taper un ko, c'est un alphabet de 26 lettres, donc qui peut tout écrire. Merci.
Fatimata, merci à l'une. Peut-être qu'il faudra nous envoyer le lien. Okay. Merci beaucoup. Oui, Tariq, et puis ensuite c'est Arnaud. Tariq d'abord. Merci.
Ok.
Oui, comme dans l'étude, je voulais dire qu'il y a 5 langues en Afrique qui utilisent des caractères spéciaux. L'arabe, la langue arabe, le Soubia. J'ai une image de cela dans l'étude. Et c'est Vaitifana, Diotifana. Il y a 5 différents scripts, écritures. Bon, les autres, c'est l'alphabet latin, mais c'est 5 langues. Eh bien, on peut faire beaucoup avec au niveau des IDN. Et pour répondre à la question, j'ai sur mon écran, mais il n'est pas sur l'écran principal, mais en tout cas, c'est 5 langues d'Afrique qui utilisent une écriture différente.
Merci, c'est Arnold. Je voulais dire que la question des langues, c'est une question très complexe en Afrique, parce que nous avons dans nos pays toujours plusieurs langues. Mais il est quand même important que nous puissions être en mesure de séparer. Parce que quand nous parlons souvent langue, nous pensons au parler. Mais ici, il s'agit de l'écrit. Alors, s'agissant de l'écrit, je pense qu'on pouvait faire, on pouvait subdiviser l'Afrique en zones. Parce que nous avons, sous le plan écrit, nous avons le même mot pour les Bantous. Et je vais donner un exemple simple. Chez nous au Congo, vous avez plusieurs langues qui utilisent par exemple le mot Muntu. Ça signifie l'homme. Et en Lingala, on dit Mutu. En Swahili, Muntu. En Chiluba, Muntu, c'est toujours les mêmes mots. Alors, si on arrivait à diviser l'Afrique en zones, au lieu d'avoir une multitude de langues, on peut arriver à 3 ou 4, selon que vous êtes bantou, nilotique ou arabe, ainsi de suite. C'est là que j'ai joint à Lune, dans sa langue Nko. Je pense que nous allons nous adapter en Nko. Merci.
Fatimata, merci. Arnold, Charles.
Ok. What is important?
Ce qui est important, ce qui concerne les langues, c'est que ça unit et ça renforce les communautés ainsi que les peuples qui se comprennent ainsi et peuvent travailler ensemble beaucoup mieux. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart du temps, en tant qu'Africain, on veut avancer, on veut faire quelque chose, et le problème, c'est de comment arriver à faire quelque chose de concret. Nous avons tant de langues en Afrique. Combien on a de langues en Afrique? Quelles sont les langues qu'on devrait retenir pour développer quelque chose, pour se développer, pour utiliser ces écritures? Comment y arriver? On peut avoir une écriture, on a le problème des claviers également. Il faut travailler d'une manière unanime et il faut soutenir l'Internet de cette manière. En tant qu'Africain, donc, on peut voir les langues avec lesquelles on peut travailler, les langues qui sont parlées d'une manière très vaste et qui sont très répandues. Et c'est très difficile d'adapter ces alphabets. Bon, on a le Swahili. Le Swahili, on le parle beaucoup en Afrique. Est-ce qu'on peut prendre le Zulu, qui est très parlé aussi dans le sud du continent? Il faut penser en termes d'unité, de développement de notre continent, et de bien voir ce que l'on peut utiliser.
Fatimata,
que ce soit Charles ou Arnold, et même Alioun, les débats que vous soulevez sont des débats que nous devrons continuer, évidemment, peut-être plus tard, parce que c'est vrai que c'est très important. Et ce sont des débats quand même qui ont déjà eu lieu, qui ont commencé à avoir lieu depuis qu'on a commencé le SMSI, ou bien même avant. Alioun est là pour témoigner qu'il y a Adama Samasisiko qui s'est beaucoup investi sur la problématique des langues africaines. Et bon, peut-être qu'il faudrait peut-être reprendre la tâche et voir, parce que ça, c'est quelque chose peut-être que ICANN ne peut pas régler pour nous. C'est à nous de régler ces problèmes-là sur le terrain africain. Donc, merci. Je pense que nous avons fait un bon tour de table et nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, qu'il s'agit donc un peu de l'évaluation. Je vais peut-être laisser à Tidjani le soin d'en parler. Merci, Tidjani.
Merci, Fatimata. Il y a eu une fiche d'évaluation qui a été distribuée et vous l'avez sûrement remplie. Donc, on va commencer par vous donner la parole pour vous exprimer si vous avez les points les plus importants dans votre évaluation. Vous pouvez vous exprimer et puis, à la fin de la session, vous nous donnez ces fiches-là de manière à ce qu'on puisse faire le suivi par la suite. Alors, on commence par où? Saïd, on commence par toi.
Oui, Tijani. Je n'ai pas entendu.
Alors, c'est concernant l'évaluation. Mm-hmm. On a distribué la fiche d'évaluation. Mm-hmm. Et donc, à la fin de la session, on va les ramasser. Mais avant cela, chacun d'entre vous peut dire les points les plus importants dans son évaluation.
D'accord. J'ai d'abord une évaluation globale. Je l'ai dit tout à l'heure à Gisela. Je suis personnellement impressionné par l'organisation de différentes rencontres, sessions, discussions avec des personnes, chacun placé avec des responsabilités dans les structures de l'ICANN. J'ai aimé comment, d'une manière informelle ou formelle, les contacts, les communications, les échanges ont été gérés. Ça allait d'une manière très naturelle, mais en fait, il y a derrière une organisation, je suis sûr, très bien réfléchie. Donc l'impression globale, c'est que ce déplacement valait le coup. Parce que nous avons tous beaucoup de responsabilités et je me demandais qu'est-ce que j'allais trouver et j'en suis globalement très satisfait. Maintenant, sur le contenu détaillé de chaque intervention, mon appréciation, c'est que malgré le peu de temps qui était accordé à chacun des intervenants, parce que l'agenda est très serré, le contenu est passé. Et bien sûr, ça demande, comme des collègues l'ont signalé auparavant, un effort particulier individuel de chacun de nous après, surtout pour moi-même, parce que j'apprends beaucoup de choses dans cette session d'ICANN, à revenir et puis approfondir les domaines qui intéressent chacun de nous plus particulièrement. Je n'ai aucune. Normalement, je dois faire une proposition d'amélioration. J'en ai aucune parce que je suis extrêmement satisfait. Et je vous félicite. Voilà.
Merci, Saïd. Suivant.
Bonjour tout le monde. C'est Alouine Badawi Diop. En fait, moi, l'appréciation que j'allais faire, c'est que déjà, c'est ma première fois que je participe à la conférence ICANN. Donc, je n'avais pas une idée. Je n'avais pas une idée concernant le contenu même de la conférence. Donc, en fait, quand je vois mon appréciation, c'est que d'abord, ça m'a permis de bien comprendre la mission de ICANN en tant que telle. Et aussi de voir réellement les préoccupations de l'Afrique au sein de la mission de ICANN. Et aussi l'intervention des différents experts ici, ça m'a permis de voir réellement tout le beau travail qui se fait derrière cette organisation. Et que au début, j'ai été un peu... je n'avais pas bien suivi les jeux parce que tout simplement il y avait pas mal d'organisations qui sont derrière ICANN. Donc au fur et à mesure que les choses avancent, ça m'a permis de bien voir en fait toute la ramification qui est derrière ICANN et tout ce qui se fait derrière cette organisation. Donc moi je n'ai pas certaines choses à ajouter du moment où je suis très satisfait par l'organisation et que toutes les informations que j'ai eu à avoir ici. Merci.
I first got to know about ICANN.
Moi, j'étais à Accra. C'est là où on a enregistré une app. Moi, je comprends pas ce qu'il dit. Tu comprends? Excusez-moi.
Donc je ne comprenais pas le jargon, je comprenais les DNS, je ne comprenais absolument rien à toute cette terme.
I'm so happy that I came to this particular conference because I have a specialist capacity building program.
Ce renforcement des capacités a été très utile et ces activités ont été très utiles, donc j'étais content de venir à Dakar parce que j'étais très confus au départ, surtout les concepts de l'ICANN, mais maintenant j'ai beaucoup appris et ça va beaucoup mieux et je comprends ce qui se passe. Et si je n'étais pas venu ici à Dakar, je n'aurais pas été en mesure d'améliorer mes compétences, ma compréhension de tout ce complexe système qu'est l'ICANN. Et véritablement, c'est un atelier très intéressant et c'est des heures et des heures, c'est très difficile, c'est très intense. C'est vraiment un renforcement des capacités, mais ça va encore plus loin que cela. J'ai tant appris. Ça a été si bénéfique pour moi. Et parce que vous savez, je crois que je vais retenir beaucoup plus de points et de compacts. Et vraiment, ça m'a ouvert tout un monde, le monde de l'Internet. Merci.
Mon nom, c'est Prince Henning. Je fais partie de la Fondation de la jeunesse africaine. C'est ma première fois, ma première participation à un atelier ou une conférence à Cannes. Je suis d'accord avec mon frère. J'ai beaucoup appris à propos des activités d'ICANN, ses intentions et comment cela générera beaucoup plus de participation globale. Mes seules réservations sont les commentaires que j'ai à faire en référence à augmenter la participation, à quel niveau est-ce que ICANN va augmenter la participation des groupes? Parce que en Afrique, par exemple, moi au Ghana, comme exemple, beaucoup de nos gens, même les utilisateurs de l'Internet, ils ne sont pas, comment je pourrais dire, ils n'ont pas les avantages, ils n'obtiennent pas les avantages, ils ne profitent pas. Ces utilisateurs dans ma région n'utilisent l'Internet que pour jouer, pour regarder du sport, pour avoir les nouvelles. Mais au niveau business, je pense que nous avons un problème. Les utilisateurs n'utilisent pas pour le business. Il n'y a pas cette idée dans ma communauté. Ils n'utilisent ça juste pour du loisir. Alors je me demande si ICANN peut faire plus dans ces régions, s'ils peuvent faire plus d'assistantes à proximité, d'outreach dans nos régions, dans nos quartiers, pour voir s'ils ont plus de problèmes outreach, d'assistance, pour aider nos gens à connaître les bénéfices de l'Internet, comme ils l'ont, par exemple, en Europe. On dirait que nous sommes les États-Unis, l'Europe, vous êtes beaucoup plus en avance que l'Afrique. Nous, on y arrive, mais en majorité, les utilisateurs en Afrique, du moins dans mon coin, n'ont pas les avantages de l'Internet autres que juste pour leur loisir, mais pas dans l'aspect business. C'est ma seule réservation. Merci. Est-ce que je peux vous demander de parler de l'évaluation et d'être bref, s'il vous plaît, parce que nous n'allons pas avoir beaucoup de temps. Prochain commentaire. Je suis partie de la communauté ICANN depuis trois ans. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre encore. Quand il s'agit de la participation d'ensemble de la communauté GAC dans la construction des politiques de ICANN, et quand il s'agit de la conformité, là tout de suite je vois que le 24 on a parlé du développement des politiques et sur le 25 nous avons aussi parlé de la conformité. Ces deux domaines, quand il s'agit de l'élaboration des politiques chez ICANN, je pense que GAC devrait considérer les membres du GAC devraient être complètement inclus, engagés. Mais les autres pays qui... Combien de pays sont représentés dans ces politiques, dans la construction de ces politiques dans ICANN? Est-ce que il faudrait considérer aussi la conformité, si les pays sont représentés dans l'élaboration des politiques à partir de la base, cette stratégie dont on parle marcherait mieux? Comme moi, par exemple, mon pays, il n'y a personne au GAC. Comment est-ce qu'on sait si on prend avantage, on profite de ces politiques? Donc je propose que il devrait y avoir un peu d'espace donné dans la communauté GAC. Fatimata, I know that we have a lot of things to tell each other, but do not forget that we have a list.
Si nous voulons vraiment revenir sur les thèmes et autres, nous pourrons le faire sur la liste. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je vais suggérer ceci. Pour l'évaluation, il y a des points positifs qui ont été dits. Est-ce que quelqu'un a un point positif qui n'a pas été dit pour nous le dire très rapidement? Parce qu'il ne nous reste que 3 minutes. Et s'il y a des points négatifs aussi, qu'on le dise très rapidement. On n'aura pas besoin de demander à tout le monde d'intervenir pour répéter la même chose. S'il y a des points positifs qui n'ont pas été dits, je vous suggère de le dire. Quelqu'un lève la main. Oui, Didier.
Je pense qu'il y a eu la pertinence et la disponibilité des différents intervenants.
Fatimata, merci. Didier, Baudouin et après Peters.
Bon, moi, I just want to my contribution in all this. Okay, sorry.
Juste un petit point. Je voudrais ici remercier, enfin, oh non, si les autres ne veulent pas, mais je voudrais quand même demander votre autorisation de remercier Aziz, Heidi, Gisela pour les diapos des ALS. C'est vraiment un travail fantastique. Entre autres, le drapeau de la RTC, il faudra le changer parce que c'est pas le bon drapeau.
Fatimata, merci Baudouin. Tout le monde, je demanderai à tout le monde d'être aussi concis que Didier, s'il vous plaît. Merci.
I do not have. I made up my mind not to.
Je me suis dit que je n'allais pas faire de observations journalières. Voilà, c'est ma seule contribution. J'ai fait un résumé. En général, tout ce qui a été fait ici depuis dimanche et jusqu'à aujourd'hui a été très, très facile à comprendre. Cette réunion m'a vraiment étendu mes connaissances. Tout a été clarifié. Je sais maintenant où je veux être au niveau de la communauté de ACAN. Mes conclusions sont que nous devons continuer ce capacity building, cette donc construction de capacité à chaque réunion de ICANN. Sophia, maintenant.
On a fini, il est déjà 9 heures. Sophia pour 10 secondes, ensuite Yaovi, Michel, 10 secondes chaque.
Ça y est, les 10 secondes, vous les avez prises. Alors donc, comme c'est une première expérience, ce
renforcement. C'était une première expérience, ce renforcement de capacité, comme. Ah!
Donc déjà, le programme, c'est peut-être à reprendre au niveau de l'évolution des thèmes et qu'il y ait un renforcement. C'est un renforcement, c'est qu'il y a eu des capacités auparavant. Donc je propose qu'il y ait des parrainages des ALS avant venu pour que ça soit plus bénéfique pendant l'événement. Merci.
Merci et pour toute l'équipe. Malgré le temps insuffisant, ça a évolué. Ma proposition, c'est que pour la prochaine fois, que l'évaluation, on trouve le temps, même si c'est 5 minutes, de donner l'évaluation à la fin ou bien après, avant la deuxième journée, qu'on ait les évaluations. C'est très important. Ça nous forcera à mieux suivre. Merci.
Michel, je voudrais tout simplement remercier toute l'équipe, des animateurs. Par rapport à cette première rencontre de renforcement de capacité, ils ont subi un peu notre pression aussi. Merci.
Merci, tout le monde. Je pense qu'il n'y a plus. Tidjani, tu veux dire quelque chose, c'est ça? Il n'y a plus d'évaluation. On a noté les recommandations. Merci pour les remerciements et les félicitations que nous partageons avec vous d'ailleurs, parce que nous avons travaillé tous ensemble, nous sommes concertés tous pour préparer ces journées. Et vraiment, nous vous remercions pour votre participation.
Les fiches.
Quelles fiches?
Les fiches d'évaluation.
S'il y en a qui ont déjà fait des fiches d'évaluation, on voudrait bien les récupérer, s'il vous plaît. En tout cas, nous vous remercions et nous allons continuer le renforcement de capacité. Nous allons continuer le coaching en ligne. Et maintenant que nous nous connaissons mieux, je pense que la communication va être plus facile. Et encore une fois, merci au staff de ICANN. Merci à tout le monde. Et au revoir. À très bientôt. Merci.